la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Être classique, l'exemple des éditions du Puy. Être classique en bande dessinée, qu'est-ce donc ? La bande dessinée dite franco-belge, le classique du genre, la bande dessinée de genre, justement, les formats, 44 pages, couleurs. Qu'est-ce qu'être classique en 2021 ? Eh bien, aux éditions du Puy, nous en avons quelques exemples. Être classique, c'est continuer, de manière intemporelle, une série qui vise ce classicisme et cette intemporalité. La série Théodore Poussin, par exemple, de Franck Le Gall, un auteur que j'adore depuis mon adolescence et qui remet en selle depuis quelques années son héros pour de nouvelles aventures. Un tome 13 avait été publié il y a déjà 2 ans et quelques. Voici un tome 14 très bientôt pour l'année 2022. Et ce tome 14, baptisé Haro Sato, est prépublié dans des formats très jolis, des carnets, des cahiers. Les cahiers Théodore Poussin, et il y a déjà 2 sur 3 épisodes qui ont été publiés de ce Haro Sato. On y voit justement le classicisme et le dessin à l'œuvre de Franck Le Gall, c'est-à-dire les détails d'un dessin en noir-blanc, l'album sera lui en couleur, mais un dessin en noir-blanc et les épisodes donc parfois un rien crayonné de Haro Sato avant même qu'il soit publié, et puis des compléments pour ce très joli format cahier avec des peintures, quelques éléments de recherche graphique qui permettent de se plonger vraiment dans le travail d'un dessinateur à l'œuvre. Un dessinateur qui œuvre justement à une forme d'intemporalité par cette série qui se passe dans les années 30, 1930, du côté de l'Asie du Sud-Est. Et ça pourrait être une histoire de pirate. Il y a tous les ressorts pour une intrigue de pirate. Mais Théodore Poussin, c'est autre chose, c'est un personnage qui, tel Corto Maltese, traverse les aventures de manière presque juvénile, ou en tout cas ininquiétée, ou presque, et de manière très littéraire et poétique. C'est une merveille de classicisme, justement. Être classique, ce serait reprendre une série classique telle Spirou et Fantasio. Franck Le Gall en avait fait un épisode justement dans les aventures de Spirou et Fantasio vues par un auteur pour essayer de redynamiser cette série. Émile Bravo également avait publié un épisode dans cette série parallèle à la série principale Spirou et Fantasio, et il a poursuivi et continué. Et il est en train de travailler à une très grande œuvre classique, c'est L'Espoir malgré tout, un récit en 4 parties, avec chaque fois quelques 100 pages qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un très beau et fort travail d'histoire, de mémoire, et avant tout un récit d'aventure avec un Spirou encore assez jeune, mais qui va prendre du plomb dans la tête, et non pas du plomb dans l'aile, puisqu'il va s'intéresser à ce qui se passe autour de lui, comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de la Belgique occupée, avec Fantasio qui rejoint la résistance, avec tout un tas de messages qui peuvent être passés, avec des juifs que l'on cache, avec des juifs que l'on déporte. Et c'est à l'intérieur de cette tourmente de la Grande Guerre que cette aventure se déploie, qui au fur et à mesure s'enfonce dans quelque chose de résolument plus sombre, comme l'histoire de ce même moment. Nous sommes pour le 3e volume, et le 4e est en cours de travail, à l'orée de la libération, mais bien loin encore, et les choses s'enveniment pour les personnages, Spirou, Fantasio et leurs camarades d'aventure. Difficile de résumer complètement l'histoire, mais vous l'aurez compris, il faut lire cet Espoir malgré tout de Émile Bravo, une aventure de Spirou en 4 parties et avec un dessin magnifique, là aussi dans un classicisme qui rejoint plutôt la période JG pour les spécialistes de Spirou et Fantasio, ou les tout premiers Franquin, avec des personnages qui sont résolument caricaturaux mais très dynamiques et qui donnent vraiment toute une vivacité à cette bande dessinée vraiment merveilleuse. Une autre manière de faire du classicisme en bande dessinée, c'est de rééditer et de commenter des œuvres classiques. Et c'est le cas des ouvrages que Franquin a laissés derrière lui, tout un tas d'aventures de Spirou et Fantasio, justement, et puis Gaston Lagaffe, bien sûr. Les éditions Dupuis rééditent de manière commentée et raisonnée un certain nombre d'ouvrages de Franquin. Et là, c'est une série d'aventures de Spirou et Fantasio un peu parallèle qui avait été publiée en France pour essayer de conquérir le marché français dans Le Parisien Libéré, des récits plus courts. Spirou et les petits formats est réédité dans un beau gros volume commenté par Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau, qui sont ceux qui œuvrent à l'histoire et à la grande histoire de Spirou, puisqu'ils ont repris toute une série d'ouvrages qui racontent l'histoire du journal de Spirou. Et bien ici, ils se sont attachés à commenter et à remettre correctement dans l'ordre et proposer une lecture raisonnée de cette aventure Spirou et les petits formats, co-signée Roba et Franquin. Roba, l'auteur de Boule et Bill, qui à cette époque-là va tout juste commencer cette série Boule et Bill. On est à l'orée des années 60, mais il est encore l'assistant de Franquin pour trois aventures qu'ils réaliseront ensemble. Et il se fait la main, comme on pourrait dire, mais dans cette aventure, qui est la troisième qu'ils ont réalisée ensemble, eh bien, il est tout à fait dans les pas du maître et il arrive à distinguer aussi son trait dans des éléments de décor de cette aventure tout à fait étonnante qui, mine de rien, invente l'imprimante 3D largement avant l'heure, une histoire de photographie et de mise en relief d'une photo qui tourne mal et qui rend amnésique le pauvre Fantasio. Un récit que j'avais vraiment apprécié de lire quand j'étais enfant, puisqu'il figurait dans l'album numéro 17 de la série classique, Spirou et les hommes bulles, et c'était l'histoire qui s'ajoutait, et qu'il est intéressant de relire, commenter, détailler par Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau, un beau gros volume donc aux éditions Dupuis, Spirou et les petits formats de Roba et Franquin. Faire classique, mais en 2021, c'est Ténébreuse, le premier livre, il y en aura deux, il semblerait, de Maillet et Hubert, le scénariste de Peau d'Homme et le dessinateur du Grand Mort. Une histoire fantastique, un peu d'heroic fantasy, une histoire de chevalier, de sorcellerie, de quelque chose qui tourne mal, un chevalier maudit qui va délivrer une princesse qui finalement vivait très bien, entourée de ses monstres, une malédiction familiale, quelque chose lié à une sirène maléfique qui aurait pris le contrôle d'un pays. On est dans de l'hyperclassicisme du genre, et peut-être un peu trop. Le dessinateur Maillet, qui a largement travaillé avec Régis Loisel et travaillé sur les derniers épisodes de La quête de l'oiseau du temps, eh bien, ne s'éloigne pas beaucoup de cette emprise-là, et pour le coup, on a un peu l'impression de lire un livre des années 80, avec tous les clichés du genre et un rien de la balourdise qu'il y avait dans ces séries classiques qu'on pouvait trouver dans les années 80, alors que la bande dessinée n'avait pas encore fait sa belle révolution de l'orée des années 90, qui a un peu rebrassé les choses du côté des auteurs et des autrices. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, mais il est évident et plus honnête de dire que, en général, l'heroic fantasy, tout comme la science-fiction, me laisse un peu à côté. C'est pourtant de la science-fiction, le dernier Atlas, mais ça ne me laisse pas complètement à côté. Le troisième et dernier volume de cette série, de gros volumes, publié chez Dupuis toujours donc, signé Fabien Velman, Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel, Fred Blanchard et pour les couleurs, Laurence Croix, eh bien ce dernier volume clôt donc une histoire, pas vraiment de science-fiction, mais d'une forme de dystopie. Quelque chose aurait changé dans l'histoire aux alentours des années 1920 et le rapport de la France à l'Algérie ne serait pas le même. Ça, c'est un des principes de base. À l'intérieur de ce récit qui se déploie de manière assez complexe dans le scénario, mais tout à fait limpide, eh bien, on trouve aussi des robots géants nucléaires qui peuvent lutter contre un certain nombre d'ennemis, dont par exemple un UMO, un objet mobile non identifié, qui est une sorte d'élément extraterrestre bizarre qui va prendre corps tout d'abord au sein du désert algérien, puis se déplacer. Il y a l'écocide en cours qui est plus que présent dans cette histoire et évidemment un certain nombre de personnages qui vont œuvrer à essayer de rétablir une forme d'équilibre, dont le personnage principal qui est une sorte de caïd, un peu malfrat, dont on ne comprend pas toujours bien les motivations, mais qui vont se clarifier et se dessiner au fur et à mesure de ce livre. Au dessin, c'est Hervé Tancrel, qui est assisté de Fred Blanchard pour un certain nombre d'éléments graphiques, notamment les robots, le personnage de Lumeau, et puis un certain nombre de décors. Et au co-scénario, donc, Fabien Wellmann et Gwen de Bonneval. C'est du classicisme en 2021, c'est-à-dire avec des préoccupations tout à fait contemporaines, mais quand même une forme de récit tout à fait classique, presque, en exagérant un peu, à la Edgar Pierre Jacobs, à la Blake and Mortimer, quelque chose qui va aller chercher du côté des technologies, de la science, et aussi des avancées de l'humanité pour faire corps et décor à une histoire, à un récit, à une enquête, un polar aussi, car c'est un polar. Le dernier atlas, donc, troisième tome de Wellmann, de Bonneval, Tancrel, Blanchard et Croix. C'est chez Dupuis, un gros volume également. Et tout ce classicisme permet finalement de revenir à une forme simple et enfantine pour ma part de la bande dessinée, c'est-à-dire le récit, l'histoire avant tout, l'aventure, les péripéties. En relire de temps en temps permet de repositionner un certain nombre de choses et de replonger avec plaisir, et ce sera l'objet probablement des prochaines chroniques, dans des récits tout à fait différents, des autobiographies, des récits de l'intime, des enquêtes, du reportage, toute cette bande dessinée qui s'est développée depuis l'orée des années 90 et jusqu'à nos jours. Les deux coexistent, les deux moments sont différents, deux moments de lecture qu'on peut apprécier diversement.